Donc, j'ai intitulé cette conférence, si on peut appeler conférence, Globalisation et la théorie postcoloniale ou postcolonialité. Et donc, ce sont des concepts utilisés spécialement dans les années 80-90 avec une autre approche qui a été développée beaucoup en France par Jean-François Lyotard, qui est également contemporain de ces deux concepts, la postmodernité, la condition postmoderne. Donc ces trois axes conceptuels, je dirais, théoriques, ont bien sûr une pratique. Et je vais essayer de les réunir ensemble dans cette heure. Et donc, peut-être qu'il fallait commencer par définir ou rappeler qu'est-ce que c'est que ces trois concepts. Dans la condition postmoderne, Lyotard disait que on est dans une période où en théorie et en pratique, les événements de la modernité, avec son histoire plutôt française, mais européenne, anglo-français, avec le romantisme allemand, donc la philosophie du 19e siècle, au début du 20e siècle, plutôt allemand, mais par la suite, la philosophie française commence à dominer, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. La scène intellectuelle, philosophique, sociologique, anthropologique est aussi dans l'art contemporain, avec ses philosophes, ses sociologues, comme Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Baudrillard, et un peu de Pierre Bourdieu aussi. On peut le citer entre ces noms-là. Bien qu'ils sont très différents, et qu'il vient d'une origine très différente aussi, philosophique et sociologique. Mais peut-être avec Claude Lévi-Strauss, je dirais qu'ils sont tous originellement étudiants en philosophie, au départ, avant de devenir anthropologue ou sociologue, comme Descola d'ailleurs de nos jours. Donc la condition postmoderne nous disait qu'on est arrivé à la fin de l'idéologie. Donc, quand on parle d'idéologie, à l'époque, c'est le marxisme, bien sûr, parce que qui s'est transformé en une politique concrète et réelle, en Union soviétique au départ, avec la révolution de 17 octobre. Et puis, la fin des grands récits, en même temps que la fin de l'idéologie, est dans le discours philosophique des années 80. Le livre apparaît donc en 1979, et on commence à débattre dans le monde entier cette philosophie de postmodernité à partir des de théorie développée par Lyotard. Au départ, c'était les artistes qui ont donc pensé à être des artistes postmodernes, avec surtout Andy Warhol, les années 60, la pop art, et Rauschenberg, avec ses combinés et ses associations des assemblages. On parlait de l'art postmoderne déjà aux États-Unis. Mais le développement par Lyotard de la postmodernité était un peu plus difficile parce que ce n'était pas uniquement dans la façon dont on faisait l'art qui était changé, mais en même temps une pensée intellectuelle, d'où une réflexion sociétale. La fin du modernisme, c'était en même temps une grande critique de Enlightenment, de siècle de lumière, développée par Kant, surtout Mendelssohn à Kant, qui a été donc repris par hasard par Michel Foucault à la fin de sa vie, 83-84, avec chaque fois avec le même article qui s'est développé, mais en même temps, ça se variait entre elles, les articles, quand il s'agit des séminaires qu'il faisait aux États-Unis ou en France ou au Collège de France. L'article qui avait été publié au magazine littéraire sur le Qu'est-ce que les Lumières également faisait de Foucault un penseur de siècle de Lumière parce que tout le monde pensait que Foucault est contre cette idée des Lumières et la critiquait. Et surtout, sa réflexion sur la révolution iranienne en 78-79 a été beaucoup critiquée, d'où également que dans l'histoire de la sexualité, Foucault a changé son axe de recherche pour aller vers les Grecs et Romains sur le christianisme, le souci de soi et les plaisirs dans le monde antique. Et troisièmement, c'est le savoir pour Lyotard qui était défini comme achetable et vendable. Donc le système universitaire, parce que c'était un travail de Lyotard pour l'Université de Québec, afin de voir l'éducation de l'époque avec les nouvelles technologies. Donc, c'était l'informatique, la bureautique, etc. La communication, etc. Donc, avec cette nouvelle approche du savoir comme informatique et communication, Lyotard disait que l'université classique allemande de Humboldt, pour faire apprendre au public gratuitement le savoir, donc aux étudiants et aussi au public, quand on écrit des articles dans les journaux et dans les revues spécialisées et aussi dans les revues publiques, c'est ouvrir le savoir à tout le monde. Donc, avec la condition postmoderne, Lyotard disait que le savoir est quelque chose de caché, vendable et que coûte cher. Et cette condition, c'est le système, comme il l'appelait, input-output. Donc avec plus de facilité de gagner plus d'argent, sans beaucoup travailler. Donc c'est le capitalisme dont il parlait, bien sûr. Ce système, un peu aujourd'hui, globalisation et après globalisation, on peut dire aujourd'hui que le capital crée de moins en moins de plus-value. Il est caché dans des paradis fiscaux, attend que un nouveau système post-capitaliste, peut-être qu'on peut appeler, apparaisse. Donc, à ce moment-là, pendant que Lyotard développait ses idées, avec la critique des siècles de Lumière, on a de notre côté les intellectuels indiens. C'est eux qui ont créé la théorie postmoderne, postcoloniale. Les Indiens ont eu des approches critiques à l'Occident et aussi à leur propre bourgeoisie indienne colonisée et qui a une alliance, qui a fait une alliance avec le capital britannique en Inde. Mais dans toute la théorie postcoloniale, les colonisés et les colonisateurs, les capitaux se faisaient alliance et la bourgeoisie, comme disait Ranait Guha, Guha, l'intellectuel indien, historien indien, qui a fait un travail comparatif de l'histoire du capitalisme européen et indien, dans lequel il argumentait cette idée que la bourgeoisie indienne n'a pas fait son rôle universelle qui est de lutter contre le système ancien, féodal, le système de caste en Inde, le système religieux, pour pouvoir dominer avec une hégémonie en prenant le consentement du peuple. Et ceux qui pensaient que c'était le cas dans la Révolution anglaise en 1640-48 de Cromwell, et puis la Révolution française de 1789. Dans les deux cas, Guin pensait que la bourgeoisie a fait son rôle pour dominer les aristocrates et pour créer un système capitaliste bourgeois en faisant alliance avec les paysans et les citadins qui sont des gens chômeurs, sans travail ou artisans des villes contre l'aristocratie et le système féodal. Mais par contre, quand on regarde de près les historiens sur la Révolution anglaise, par exemple, ils ont vu que déjà le système capitaliste commençait à exister en Angleterre bien avant la révolution de Cromwell et la révolte des paysans et des citadins de 1640-41. Donc, ils pensaient que les gens qui critiquaient donc la pensée postcoloniale disaient de Goura qu'il glorifie la bourgeoisie européenne pour critiquer la bourgeoisie indienne. Et aussi la bourgeoisie française. Quand il s'agit de la France et de l'Angleterre, peut-être on pourra dire que ce n'était pas vraiment des capitalistes, les Jacobins. Ce n'était pas des marchands, ce n'était pas des gens qui faisaient du commerce. Mais par contre, en Angleterre, d'après les historiens, c'est plutôt les commerçants comme bourgeois révoltés contre l'ancien système et régime ancien, comme on disait. Et Goethe pensait que la bourgeoisie indienne n'a pas fait son rôle du capitalisme universel. Qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme universel? C'est l'extension du capital pour faire des gains, de la plus-value. D'abord, dans son royaume, dans son pays, et puis l'extension vers l'extérieur, l'Europe et au-delà de l'Europe. Ça, c'est l'universalité du capitalisme. Et cette universalité est infinie, sans limite. N'est-ce pas? C'est que ce capitalisme révolutionnaire, Marx pensait que la bourgeoisie était révolutionnaire. Ce capitalisme révolutionnaire démantelait les anciens modes de production pour que il y ait une soumission, non pas formelle, mais réelle, au capital, des travailleurs et des paysans. Des travailleurs aussi, des prolétaires et des paysans. Donc, c'était, comme Marx disait, cette organisation du capitalisme était un système de la composition organique du capital. Donc, il fallait avoir un capital variable, capital fixe, et une plus-value pour que ce système marche. Avec la globalisation, qui est un mouvement assez intéressant à mon avis, parce que non seulement que il y a une extension du capital dans la géographie mondiale et aussi dans les limites de l'infini. Il y a l'extension du capital dans la limite de l'infini et surtout la globalisation dont on parle dans les années 90 a un début. Après 68, 69 est une année exemplaire parce que non seulement que l'État-nation a commencé à changer de forme dans tous les pays, et surtout en Europe, en Occident. Et en 71, juste après, il y a la fin de ce système étalon dollar-or, donc la libre circulation du dollar sans avoir un équivalent en or, d'où la circulation du capital devient beaucoup plus facile. Non seulement dans l'Occident, mais dans le monde entier. De plus en plus, cette situation a créé donc la crise de, comme on disait, la crise de pétrole, 73 et 78. Donc, la première fois, on voit à l'intérieur du capital international du capital non occidental, les pétrodollars, qui commencent à entrer dans ce système. À l'intérieur du capital monopolistique. Et c'est une lutte non seulement entre deux systèmes, mais c'est une lutte en même temps entre deux classes dominantes, la classe monopolistique occidentale et la classe, je dirais, transnationale, qui désire la circulation à l'extérieur de l'Europe, au-delà de l'Europe, pour investir et créer de nouvelles possibilités du marché pour le monde capitalistique qui était de plus en plus en crise. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en les années 70, vous allez vous rappeler peut-être que déjà en France, la question de l'invitation de l'immigré commence à être en crise, les années 76, 78, 80. Donc, il y a eu cette crise de l'immigration. Et quand la droite arrive au pouvoir, donc il fallait travailler sur l'inflation. Quand la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand, donc c'était contre le chômage qu'il pratiquait un système économique et politique. Mais cette globalisation, début de globalisation, à mon avis, un rapport, non seulement pour le changement mondial, mais également épocal, dans le sens heideggérien du terme. Et je pense qu'on peut les comparer avec le XVIIe siècle, avec la pensée philosophique moderne, la pensée mathématique des Desargues, qui donc a commencé de mettre à côté la géométrie pour travailler sur le système conique et l'hyperbole, les paraboles qui sont beaucoup plus intéressants. Donc le volume est beaucoup plus intéressant que les lignes droites, le triangle et le cercle. C'est une révolution dans les mathématiques au XVIIe siècle que Descartes, par la suite, Leibniz développe, et Pascal aussi, parce que on commence à parler de l'infini. Le monde était en crise, il avait perdu son centre, d'après Pascal. On était entre deux infinités, infiniment petit et infiniment grand, entre le Dieu et infiniment petit. Microcosme, macrocosme, c'était une période où on passe du centre, comme disait Deleuze, du centre au système du point de vue conique. Le cône, c'est le point de vue au milieu. À partir du point de vue, on commence à penser le centre. Et de la même manière, quand on regarde la globalisation, le centre et la périphérie dont on parlait dans les années 60-70 par les théoriciens de théorie de dépendance, Samir Amin, Arrighi, Wallenstein, etc., Bargopoulos, tout ça. Il y avait le centre occidental qui dominait le monde et dominait aussi la périphérie. Et comme André Gundula-Frank analysait dans le système de dépendance de l'Amérique latine vis-à-vis de l'Occident, l'Europe, comme quoi il y avait non pas le pays sous-développé, mais des pays qui sont restés dans le sous-développement parce qu'il y avait la dominance de capital occidental sur ces pays-là. Et une partie est vraie aussi, parce que c'est également dans ces années-là, avec la crise économique des années 2000, des années 70, il y a eu l'assassinat de, c'est un suicide, mais on peut parler de l'assassinat, de Allende au Chili, par le général Pinochet, et qui a la première fois a expérimenté la théorie monétariste de Milton Friedman. Et Milton Friedman parlait de liberté. Mais ce n'était pas la liberté de la Révolution française dont il parlait. C'était la liberté de capital. Le capital doit circuler dans le monde entier. Il faut qu'il soit déterritorialisé, d'ailleurs comme l'ouvrier. Et la globalisation, qu'est-ce que c'est? C'est la déterritorialisation du capital et de la main-d'œuvre. Les deux devraient être circulés et c'est ça la liberté. La circulation ouverte, sans frontières, de l'extorsion de la plus-value mondiale dans tous les pays. C'est dans les années 73-14 qu'a commencé les, comme on appelait, les quatre dragons. Les bébés dragons en Asie du Sud-Est, avec Hong Kong, Singapour, Corée du Sud. Et par la suite, il y a les autres quatre dragons qui arrivent à partir des années fin 80, 80, 90, Kuala Lumpur, et puis Bangkok. Et là, on voit de plus en plus, avec la globalisation, le centre. Je disais, le centre va changer en point de vue au XVIIe siècle. Avec la globalisation aussi, le centre est devenu un point de vue multiple. Donc, le capital est, se trouvait au sommet du cône, mais en même temps, il y avait des points de vue différents de chaque capital, que ce soit investi en Asie, que ce soit investi en Amérique latine ou de moins en moins en Europe d'ailleurs. La crise du textile, tout ça, en France et dans les pays européens, c'est un peu à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que le système de centre-périphérie aussi a commencé à changer à partir des années 90. Moi, j'ai appelé cette période, depuis la fin des années 80, l'ère des mégalopoles. Les mégalopoles, ce ne sont pas les métropoles parce que les métropoles, c'est un système colonial. Il y a le métropole et la colonie. Tandis que les mégalopoles, qu'est-ce que c'est qu'un mégalopole?
Mégalomane.
C'est un peu comme mégalomane, tu as raison. Il n'y a pas de centre. Dans mégalomane, il y a un centre, l'ego. Mais dans les mégalopoles, il n'y a pas de centre dans la ville. La ville devient décentrée. Le plus bel exemple, c'est Los Angeles. Et de plus en plus, ces villes-là, que ce soit en Europe, qu'en Amérique, ou en Asie, ou au Moyen-Orient, spécialement en Turquie, au Moyen-Orient, parce qu'Istanbul, C'est un autre centre. Et les villes, à la place des États-nations, qui sont les États-nations qui sont verticalement intégrées, à la place de verticalement intégrées des États-nations, on a l'horizontalité des transversalités du capital transnational. Il y a la transversalisation du monde par les villes, par des mégalopoles. Et de plus en plus, dans ce système, on va constater, on a tous vécu cette période, les 30 dernières années. Les pays avec leur mégalopole au centre deviennent plus riches, tandis que les autres parties du pays deviennent de plus en plus pauvres. Et les villes qui sont devenues les villes dominantes du monde occidental, oriental, asiatique, en Amérique latine, et de plus en plus, l'Afrique était exclue pour l'instant, mais de plus en plus vers l'Afrique par la suite. Surtout à partir des années, donc le 21e siècle plutôt. Pas 80-90, mais au 20e siècle avec l'Afrique aussi. Cette mégalopolisation du monde, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'était le capitalisme pour Fernand Braudel? Quand il avait travaillé sur la dynamique du capitalisme, donc ces trois tomes occidentaux, et qui a inclus donc l'Empire ottoman dans la Méditerranée. Mais là, c'était plutôt la vie matérielle et le capitalisme. Et qu'est-ce qu'il disait? Le début du capitalisme, c'était des villes italiennes. Gênes, Venise, en tant que ville-État, c'est le début du capitalisme. Donc, il y a un déplacement de ce capitalisme dans l'Occident. Et dans ce livre, il montrait que le système capitaliste, à partir de Venise, a déplacé au XVIIe siècle vers le pays de Spinoza, Amsterdam. Et les Juifs aussi poursuivent le chemin. Les familles qui étaient dans des ghettos de Venise partent dans un pays où il y a plus de liberté. Et ils ne sont pas chrétiens ni catholiques non plus. Donc le catholicisme désintégrait ces capitalistes. Les Juifs, c'est parce que les Juifs avaient la possibilité de circuler avec ses cousins, cousins du Moyen-Orient jusqu'en Espagne et Portugal. On a créé un système de, non pas de l'argent qu'on circulait, mais comme on dit, des policiers. Je ne sais pas comment on dit policiers, hein. Policiers, c'est italien, mais c'est un système de signature en papier, comme quoi, quand on a la marchandise, quand on arrive. Hein, ouais, c'est ça, oui, lettre de change. Donc, ce système était le début du capitalisme, mais le capitalisme n'était pas un système étatique, mais c'était un système de ville.
De Bourgogne,
Hein?
de Bourgogne aussi,
De bourgeois.
des petites villes,
Bourgeois, oui.
oui.
Bourgeois. Mais c'est diminutif quand même par rapport à
Oui.
cité.
Ouais.
Cité-ville. C'était des cités-villes. Cité-État. Au sens que ancien latin du terme. Donc après le XVIIe siècle, donc il y a Londres, 19e siècle, la France n'a jamais été très capitaliste dans ce sens-là, d'après Braudel. C'était un centre culturel, artistique, mais pas capitalistique. D'ailleurs, en ce moment, c'est la première fois que Paris devient le centre du monde de l'art contemporain avec Basel qui arrive à la place de Fiac il y a un an. Et toutes les galeries internationales ont quitté Londres pour arriver à Paris ces dernières années. L'américaine est anglaise. Et Paris devient non seulement une ville, une capitale de l'art contemporain, mais également une capitale artistique, collectionneur, etc. Enfin, ça c'est une autre question, c'est un autre débat. Mais 19e siècle, donc Londres, qui était depuis très longtemps capitalisée, qui devient un centre capitalistique du monde, et par la suite New York. Et justement, ce qui est intéressant et bizarre, pensant l'Europe, c'est que dans le petit livre paru chez Flammarion, Jean Flammarion, La dynamique du capitalisme, Braudel dit autre chose encore. Il dit, de nos jours, donc c'est en 79, de nos jours, l'Atlantique n'est plus au centre du capitalisme. Donc Londres, Venise, Amsterdam, Londres, c'était fini. On passe au Pacifique. Donc le côté ouest des États-Unis, donc San Francisco, Los Angeles, Silicon Valley, etc., avec le Japon et l'Asie, la Chine. Le Japon, le Taïwan, etc. Donc l'Asie commence à être le centre capitalistique du monde avec les États-Unis. D'où la crise européenne. On exclut l'Europe. On n'est plus dans le centre capitalistique du monde en Europe, ni en Allemagne, ni en France, ni d'ailleurs en Angleterre, de ce point de vue. Seulement des villes qui ont des possibilités de capter le capital de nouveau par d'autres moyens que le commerce des arts. Aujourd'hui, c'est l'art contemporain. Dans tous ces films que nous voyons, les films américains, français, etc., qui ont rapport avec le crime, il y a toujours une galeriste. C'est des escrocs, la galeriste, toujours. C'est le système de blanchiment d'argent avec l'art contemporain dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Europe, en Orient, Moyen-Orient, etc. Cette mégalopolisation du capital mondial que Félix Guattari et Aricalies intitulait Le capitalisme mondial mal intégré, déjà dans les années 70, au milieu des années 70. Ce n'est pas la mondialisation, mais le capitalisme mondial mal intégré. Donc, ça se voyait déjà que l'Occident n'est plus le centre du capital et du capitalisme aussi. Et la théorie postcoloniale, je reviens à ça, justement, c'est à ce moment-là que, dans les années 80, on commence à critiquer l'Occident comme Occident colonisateur, que ce soit France, que ce soit l'Angleterre ou un peu l'Italie. Déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie n'existe plus dans ce système, l'Angleterre et la France. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, est le premier pays qui a gagné son indépendance vis-à-vis des Anglais et des Français. La guerre de 7 ans, c'est un peu ça, cette histoire. C'est un peu comme disaient certains historiens, c'est la première guerre mondiale, la guerre de 7 ans. C'est ce qui se passait au Canada, aux États-Unis, au nord des États-Unis. Donc, il y a, avec la pensée postcoloniale, la critique de l'Occident, la critique de Lumière et la critique de la bourgeoisie locale, Je dirais parce que, oui, il parle de l'indienne, mais c'est la même chose concernant l'Algérie, le Maroc, etc. Donc, les pays du nord de l'Afrique, etc. Donc, il y a cette histoire. Pour la France, c'est assez difficile parce que, comme vous savez, donc avec l'Algérie, après que la conquête a été faite par de l'Empire ottoman et l'Algérie devient de plus en plus française, il y a eu beaucoup de révoltes jusqu'au 1870. Et en 1870, c'est très intéressant parce que c'est l'année où, en France, il y a eu cette loi pour que les Juifs pourraient avoir l'acquisition de la nationalité française, mais pas les Arabes hein, en Algérie. Il y a donc les Français d'origine et les Juifs de ces pays-là, de l'Algérie plutôt, avec les Arabes qui ne sont pas considérés, c'est les territoires français, mais ils ne sont pas considérés comme citoyens français à part entière. Et d'ailleurs, dans son... À mon avis, c'est un livre formidable. Jacques Derrida, dans son livre sur le monolinguisme de l'autre, il raconte sa propre histoire. Et c'est une histoire assez intéressante parce que c'est en même temps un débat entre Derrida et Édouard Glissant. Édouard Glissant, c'est celui qui est donc qui a théorisé le multilinguisme avec le créole, avec le français, une sorte de mélange de créole et de français, tandis que Derrida, il disait, j'ai une seule langue qui n'est pas la mienne, mais c'est le français. Il n'était pas français, mais sa langue maternelle était français. Mais bien qu'il était juif d'Algérie. Donc, cette discussion, débat entre monolinguisme et multilinguisme est très intéressante parce que ça a un rapport aussi avec l'université. L'université. Université du Moyen Âge, avec des philosophes comme Jean de Salisbury, Abélard, Auguste Saint-Augustin, Anselme, etc. Et là, on peut peut-être finir en développant l'idée de l'universel. Qu'est-ce que c'est que l'universel? Parce que la dernière fois, avec certains d'entre vous, on avait discuté sur l'universel. Je disais que c'était très important, tandis que la critique de l'universalisme, parce que c'est l'Occident, parce que c'est l'occidental, parce que c'est colonisation, etc. Et je veux revenir à ce débat du Moyen Âge pour développer qu'est-ce que c'est que l'universel. Parce que c'est assez intéressant d'une façon grammaticale et logique au Moyen Âge, au XIIe siècle. Il y a la querelle, la querelle des universaux, comme on disait à l'époque. C'est que, surtout Jean de Salisbury, il était originalement anglais, mais il est fini par l'évêque de Chartres. Donc en France, il est mort en France. Et il a développé une théorie de une grammaticale, je dirais, au départ, logique et grammaire et logique, qui a beaucoup influencé les linguistes fin 19e siècle. Les Américains, surtout Peirce, Charles Sanders Peirce, qui a beaucoup influencé donc, les linguistes 19e siècle, fin 19e siècle, parce que qu'est-ce que c'est que la singularité et qu'est-ce que c'est que l'universel? C'est cette question, c'est ce débat qu'ils ouvrent à partir de textes d'Aristote, Aristoteles. C'est qu'il y a trois choses. Et en même temps, c'est très intéressant parce que le sujet, vous vous souvenez peut-être, Althusser, c'était quoi pour Althusser le sujet? Vous vous souvenez? Quand on appelle quelqu'un, on le fait le sujet. Appellation, on dit Ali, je deviens sujet. Et Althusser, certainement, sans parler, avait lu ces textes-là. Donc, l'appellatio, comme on disait en latin, on appelle une chose ou quelqu'un par son nom personnel. Quand on dit Ali, ici, il n'y a qu'un seul lit. Je dis oui, je deviens le sujet. Je suis un individu singulier. Mais s'il y avait cinq Ali ici, dans cette salle, de quel Ali il s'agit? Ali Akay, oui. Mais il y a plusieurs Ali Akay dans Turquie comme nom.
Oui.
Quand je cherchais mon mail, j'ai marqué Ali Akay @gmail.com. Il ne m'a pas donné. J'ai fait Ali Akay 1, il ne m'a pas donné. 2, il ne m'a pas donné. J'ai fait 99, il m'a donné. Donc, il y a plusieurs Ali Akay dont je suis individuellement moi-même. Donc, c'était d'abord l'appellation, appellatio, donne une nomination. On me nomine. Mais mon nom, il y en a plusieurs. Quand il y en a plus d'un, et grammaticalement, on ne devient plus sujet, mais on devient universel. Ali devient universel. Et chez Deleuze et Guattari dans Anti-Œdipe, quand il critiquait le système capitaliste, donc le capitalisme et schizophrénie, donc le titre le premier titre de l'Anti-Œdipe. Il nous rappelait que le système capitaliste, c'est le seul universel. Quand on pense que le capitalisme est le seul universel, c'est pas les droits de l'homme, ni d'ailleurs la fraternité, l'égalité et puis liberté, c'est pas des notions qui sont universelles. Universaux, bien. Ce sont un système qui devient universel. C'est parce que le capitalisme est, dans les années 70, début des années 70, a contracté l'infini. L'infini, c'est quoi? C'est tout. Et non seulement le monde, mais à partir de 69, c'est la Lune aussi, dans l'extension du capitalisme, où la concurrence entre l'Union soviétique et les Américains pour la conquête de l'espace. Je veux bien que ça continue, cette histoire. On ne sait même pas s'ils ont mis leurs pieds à la Lune. On parle de film de Kubrick, parfois. C'est des théories des complots, mais c'est en dehors de la Terre que ce système commence à imaginer à être dans son extension au pluriel. Elon Musk rêve de ça, non? Aujourd'hui, on en a fini avec la Terre, avec l'Anthropocène. Il faut trouver un autre lieu, un autre monde. La pluralité des mondes de Leibniz, dont il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce système-là des universels dans ce sens-là, parce que il intègre non seulement la Terre, mais l'univers entier, dans l'illimité. Big Bang théorie et jusqu'à l'infini, comme disait Hubert Reeves. Donc, ces trois termes, ces trois notions, ces trois concepts, postmodernité, postcolonialité et le capitalisme mondialement intégré, donc c'est la globalisation, marchent main dans la main, dans la même période, avec les mêmes difficultés et possibilités. Il y a toujours une possibilité, comme disait Foucault, la résistance est toujours devant le pouvoir, avant le pouvoir, dans un contexte désillusionné, sans espoir. Mais si la résistance prime d'abord, peut-être qu'il y aura une résistance un jour, micro-politique, etc., c'est que il y a toujours la possibilité de pliait ce capitalisme qui est, je pense même, lui-même absent de nos jours. La globalisation, de plus en plus prend fin, de plus en plus fermeture des frontières, fermeture de nouveau le nationalisme, l'extrême droite, le retour au royalisme, toutes ces idées-là, qu'on a dépassé la religion, les trois grandes religions, et plus il y a aussi l'Inde aujourd'hui avec ce système de système religieux local, etc. Donc, il y a tout un système que la postmodernité avait exclu. On avait fini à la fin de l'idéologie, c'était le marxisme et aussi la Bible et les religions aussi, qui étaient finies avec le postmodernisme, avec le modernisme et le postmodernisme, mais ce n'est pas fini. Les guerres étaient finies en 90. Il y avait le bonheur d'être, d'après Fukuyama, n'est-ce pas, la fin des idéologies. De nouveau, on parlait de ça, mais en même temps, la fin de la guerre, on pensait. C'est la bourgeoisie qui gagnait vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis du socialisme réel de l'Union soviétique, qui n'est pas réel du tout. Et je termine avec ça seulement que cette théorie postcoloniale des années 80 a critiqué leur propre bourgeoisie, leur propre société, tout en critiquant donc l'Occident, parce que c'est colonisé. Mais il disait une chose assez intéressante, c'est que comme leur bourgeoisie, en faisant alliance avec la bourgeoisie et le capital britannique, n'a pas fait son rôle que la bourgeoisie et le capitalisme italien, américain, anglaise et française a fait dans cette histoire de 17e et 18e siècle, n'a pas fait ce rôle de faire le consentement du peuple au système capitaliste, à la domination de la bourgeoisie pour la nation. Parce que le système anglo-français a fait de leur propriété bourgeoise représentant du peuple. Le peuple de France, la Révolution française. N'est-ce pas? Non. Danton, quand il parle dans ce film de Wajda. Donc, cette critique faisait en sorte que les théoriciens de postcolonialité disaient qu'on ne peut pas comprendre la société non occidentale ou indienne, d'ailleurs, avec les concepts marxistes de l'Occident. C'est le plus fort de cette théorie, à mon avis, parce que ça a créé finalement une politique anti-occidentale dans le monde entier, surtout dans le monde asiatique, musulman, etc., Moyen-Orient, etc. La politique devient anticolonialiste et anti-Occident. Et le système propre, comme on disait, essence commune, domine de plus en plus la mentalité de la population locale. On dit notre tradition, notre religion, notre habitude, les coutumes et les us. Donc c'est le nationalisme dans ce sens-là. Extrême droite, religieuse, etc. Et c'est le cas aussi en Turquie. La Turquie fait partie de cette histoire. Au même terme que Istanbul était une des capitales des mégalopoles, à un moment donné, il a perdu cette histoire, Istanbul, dans cette lutte concurrentielle des capitales internationales. Mais dans les années 60, fin des années 60, en Turquie, un romancier a lancé cette même idée que cette société ne pourra pas être expliquée par des termes marxistes à l'occidental. Donc avant les théoriciens postcoloniaux, il y avait en Turquie la même idée par ce romancier Kemal Tahir, qui s'appelle. n'y a pas de traduction de lui en français, j'imagine.
Non.
Et tout ce débat qui existe à la fin des années 60, 69, 68, et dans le début des années 70, entre les théoriciens marxistes sur le mode de production ascétique, justement, qui est différent du système féodal, et avec le despotisme oriental à la vie féodale de l'époque. Et ce débat assez ouvert en Turquie n'a pas eu de répercussions nulle part parce que ça parle turc, c'est une langue inéligible. Et les théoriciens de la postmodernité, comme disait Arif Dirlik, c'est un Turc qui a travaillé beaucoup, il est mort récemment, il a travaillé beaucoup sur la société chinoise, et il avait dit la théorie postcoloniale apparaît quand les intellectuels indiens sont devenus professeurs dans les universités américaines. Et c'est vrai parce qu'ils écrivent avec une langue illégible. Et le turc n'est pas illégible. Il est comme on disait à l'époque, une langue barbare. On ne sait pas de quoi il s'agit quand on parle. Donc, cette mondialisation, c'est en même temps la théorie postcoloniale et également une théorie de la langue anglaise qui domine le monde entier et de plus en plus. Partout, non seulement dans les pays, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, tiers-monde, aujourd'hui ils sont ces pays soi-disant en extension, n'est-ce pas, ou Global South, le sud global. Le tiers-monde devenu le Global South, parce que le capitalisme a fleuri dans ces pays-là. Et la Chine, c'est un système non démocratique, mais économiquement puissant. Donc, il y a une sorte de défi chinois au monde occidental qui, dont la bourgeoisie, comme disait Guo, avec le consentement du peuple, il représentait la nation, tandis que pour représenter la nation, il fallait qu'il donne au peuple ses droits juridique et politique. Il faut voter, il faut choisir le gouvernement et avoir les droits juridiques de propriété privée, etc. etc. Mais tandis qu'en Chine, avec ce système, comme disait à l'époque tout à l'heure, le mode de production asiatique, c'est un des pays dont cette théorie, à l'époque maoïste, on parlait beaucoup de cette histoire-là parce que qu'est-ce que c'était le mode de production asiatique? C'était un mode de production dans lequel il n'y a pas de propriété privée. C'est l'État qui dominait donc les terres, parce que l'État leur appartenait. Ce système de Miri système, comme on dit en turc, mais c'est en même temps en Russie et aussi hein? Dans l'Empire ottoman, c'est ce système-là. C'est ce système de non-propriété qui existait donc. Avec ce mode de production asiatique, les Chinois aujourd'hui, sans la démocratie, on peut avoir une économie très forte. Et de plus en plus, cet illibéralisme de ce Tanguroa qui avait théorisé cette notion de illibéralisme, c'est la fin du libéralisme. Donc, illibéralisme, c'est la liberté de faire ce qu'on veut dans son propre pays par les gouvernants. Par les gouvernants, oui. Voilà, on est dans cette situation de moins en moins dans la globalisation. Il y a une grande critique de la théorie postcoloniale et aussi la postmodernité, elle existe toujours en tant que système input-output, complètement. Ça continue à mon avis. Mais dans un système de criminalité mafieuse maintenant. Pas dans le capitalisme à la plus-value. Voilà, je vous remercie.